Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. En direct comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. La petite demi-heure des spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Alors cette semaine c'est création et heureuse reprise. Création, on ira du côté du poème avec Combat avec l'ombre, une mise en scène de Frédéric Dussen. On ira au Tanner pour Kayak. Derrière ça, il y a un trio, il y a Catherine Crindorge, Katia Dreyer et Bernard Van Engem. Du côté des reprises, on ira aux poches avec Historia à Bielta de Laurent Wanson et Kaddish à l'enfant qui ne naîtra pas de Imre Kertész à l'Océan Nord. Et je salue déjà l'équipe, Nicolas et Sophie.
Salut.
Bonjour.
Et on aura nos chroniqueuses par téléphone qui, elles, courent au théâtre en ce moment même. Alors je crois que j'ai au bout du fil Elisabeth qui est partie pour nous au poème 2.
Oui, voilà, parce que c'était... y a un beau show, hein, et donc un beau show, ça m'attire comme les mouches. Mm-hmm. Puisque qui est Henri Beauchaud, c'est quand même un de nos tout grands auteurs. C'est vraiment un phénomène parce qu'en fait, il est entré dans l'année de son centenaire. Donc il est né à Méline en 1913. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une œuvre quand même importante, commencée sur le tard. Et dans cette œuvre, il y a un roman intitulé Le boulevard périphérique. Mmh. Et c'est ce roman que Frédéric Dussen a choisi d'adapter. Alors encore une adaptation, c'est vraiment très couru, en tout cas cette saison. Mmh. Et c'est une adaptation qui a la particularité d'avoir un peu décomposé ce roman. Parce que dans le roman de Beauchaud, en fait, il y a deux fils qu'il tisse. Un premier film, c'est le décès attendu de sa belle-fille, puisqu'elle est atteinte d'un cancer. Et donc, ce sont ces rendez-vous pour lesquels il faut passer par le boulevard périphérique. Et en fait, cette proximité de la mort fait ressurgir un autre épisode, comme ça, dans la vie de l'auteur, qui est sa rencontre avec Stéphane, qui est en fait un jeune garçon avec qui il a fait de l'alpinisme. Et ce jeune garçon, donc ça se situe dans les années 40, a connu une fin tragique puisqu'en fait il a décidé d'entrer en résistance et qu'il a été exécuté. Alors il y a toutes les réminiscences et dans le roman Beauchaud passe de l'un à l'autre et Frédéric Dussen a choisi assez astucieusement finalement de ne s'intéresser qu'à cet épisode, cette relation avec Stéphane. Et il a pris donc deux comédiens, en fait, et qu'il a très sobrement intitulé l'un et l'autre. Donc, c'est pas qu'ils sont très personnalisés. Et on est donc parti pour un spectacle d'une durée assez courte, centré sur ce texte d'Henri Beauchaud. Et en fait, Henri Beauchaud a une particularité dans l'écriture. C'est aussi quelqu'un qui a fait de la psychanalyse et tout ça. Il a une écriture d'une simplicité extrême. Une écriture aussi très forte au présent, ce qui fait qu'elle se prête bien à l'adaptation théâtrale. On a déjà eu Diotime et les lions il n'y a pas longtemps avec Stéphanie Van Vive. Maintenant, Stéphanie Van Vive qui était accompagnée d'un danseur et maintenant nous avons un duo entre un comédien et un circassien. Mm-hmm. Donc, il y a un des comédiens qui a un peu plus de texte et l'autre qui est un petit peu plus dans l'écoute, qui joue le personnage de ce Stéphane, etc. Et donc, c'est un spectacle qui est sur l'épure, une épure dans la mise en espace aussi, la scénographie très simple. Il y a un portail, un cercle sur le sol et on a juste deux comédiens et le texte qui se dit. Et une extrême écoute. Donc
Mais comment on passe de l'un à l'autre, du roman à la scène? Est-ce qu'il y a eu une mise en réplique, une mise en dialogue?
Non, pas du tout. Non, ce sont des bouts de texte. Mais vraiment, l'écriture de Beauchaud est tellement simple, mais avec des couches souterraines comme ça, que je pense qu'elle se laisse quand même assez facilement capter pour la scène. Mais c'est pas du tout qu'on est dans un dialogue. Non. Il y a vraiment un des comédiens qui est en posture d'écoute, qui écoute, et finalement l'autre qui est dans un récit. Donc on est encore très fort dans la narration, puisque c'est simplement le personnage qui raconte sa rencontre avec ce Stéphane. Il y a des scènes au départ où ils sont simplement à faire de l'alpinisme, en fait. Donc on est, voilà, on les suit. Mais la langue est simple, pas du tout ampoulée, pas du tout chargée. Et donc on arrive, bon, ça nécessite bien sûr une écoute. C'est pas un spectacle comique, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus un spectacle hyper théâtralisé. Il y a vraiment cette notion d'épure qui est là. Mais on arrive très fort à écouter.
Elisabeth, l'idée du combat avec l'ombre, est-ce qu'on le sent? Qui est un joli titre, hein.
Oui, c'est un joli titre, et en fait, donc ce fameux Stéphane, bon, qui est alpiniste, mais ça c'était au début, et en fait, à un moment donné, il fait le choix d'entrer en résistance, et alors il se trouve un ennemi particulier qui est un officier nazi, qui dans le roman de Beauchaud s'appelle The Shadow, et d'où l'idée du combat avec l'ombre, puisque ça tourne en fait autour de cette confrontation, évidemment, entre ce jeune résistant et cet officier nazi que le narrateur va retrouver après. Mais ça, c'est un petit peu pour l'anecdotique, mais encore une fois, l'écriture de Beauchaud est une écriture à couche, comme ça, tout en malgré sa simplicité. Et finalement, ce qui est posé aussi, c'est le poids des choix qu'on fait, puisqu'on a deux jeunes gens qu'on découvre en train de faire de l'alpinisme. Il y en a un qui a déjà des enfants, donc fatalement, il ne va pas aussi facilement entrer en résistance. L'autre n'a pas ce poids, n'a pas cet ancrage dans la vie, il rentre en résistance et finalement avec les conséquences qu'on sait. Donc c'est un texte qui, à travers une anecdote qui est très simple, très quotidienne, en fait peut nous parler chacun à des degrés différents. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne.
Et Elisabeth, dernière question, donc c'est un texte qui est bien présent sur scène et un circassien. Que fait le cirque? D'abord, c'est quelle discipline? Je crois qu'il est dans une roussire.
Oui, c'est ça. En fait, à un moment donné, donc c'est le comédien qui a le moins de texte entre guillemets, encore qui prend la parole à quelques moments. Il est très fort dans l'écoute, donc il a une présence physique très importante. Et puis à un moment donné, il va dans cette roue et effectivement, ça correspond à un moment donné où ça bascule dans l'histoire et on a cette image qui se crée par son habilité, évidemment, à se mettre dans cette roue.
Mais le circassien n'est pas constamment dans sa discipline.
Non, il n'est pas constamment dans sa discipline. Non, c'est vraiment très, très, très pesé, très mesuré, très, très ponctué. Parce qu'encore une fois, il y a l'épure au niveau. L'épure se retrouve vraiment partout, dans la scénographie, dans le mouvement, dans le langage de Beauchaud,
dans la signature de Duchesne.
Dans la signature de Duchesne aussi, mais qui, je trouve, là, est tout à fait appropriée. Parce que ce n'est pas un texte, enfin, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme austère. La salle était vraiment dans une très grande écoute. Et ce qui était caractéristique aussi, c'est qu'à la fin, la salle avait du mal à se lever. Donc ça n'arrive pas tous les jours non plus qu'il faille ces petites minutes-là avant que les premiers os se levent pour casser un peu ce qui s'est passé, parce que voilà, ça c'est l'effet Beauchaud, je dirais. Hein.
Et coup de cœur, Elisabeth?
Ben pour moi, oui.
On le sent, hein.
C'est
l'émotion qui parle.
Oui, non, mais c'est vrai que je trouve c'est quand même un très grand auteur. C'est quelqu'un qui est proche de nous. C'est un auteur belge, mais qui a quand même une œuvre monumentale. Et voilà. Et c'est vrai que le Boulevard périphérique est un roman très accessible aussi. Et je trouve l'adaptation réussie parce que il y a vraiment cette option radicale de ne s'intéresser qu'à une partie du roman et de la mettre, de la théâtraliser, mais en respectant le roman, en fait.
Combat avec l'ombre, c'est donc un spectacle de Frédéric Duchesne qui adapte Henri Beauchaud. On retrouve sur scène Emmanuel Caillard et Jérémy Siska. Et c'est à voir jusqu'au 19 février. Et il y a des prix étudiants assez intéressants pour 5 euros.
Elisabeth, on te préparera pour la semaine prochaine un t-shirt Henri Beauchaud.
Oui,
ou
voilà.
Un poster.
Mais la photo, puis, écoute, c'est quand même un assez beau sens.
C'est son Che Guevara.
C'est ton Che Guevara.
Absolument. J'assume pleinement. Mais franchement, essayez parce que c'est une écriture. Ouais. D'une simplicité magique, j'ai pas d'autre mot.
Bon, combat avec l'ombre. À la semaine prochaine, merci Elisabeth.
À bientôt, au revoir.
3xw.théâtrepoème.be.
Alors, autre univers, je parie avec Kayak, un trio, Sophie, que tu as vu pour nous hier à la première, au Tanneur.
Au Tanneur, c'est ça. Et donc, c'est un trio. On a sur scène et aussi à l'écriture, à la mise en scène et à la conception du spectacle, Catherine Grindorge, francophone, Bernard Van Egem, néerlandophone, et Katia Dreyer, germanophone. Donc là, on se retrouve dans un spectacle.
Belgique unie.
Voilà, un spectacle qui va mélanger ces trois langues tout au long, en fait. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Et dans ce projet, en fait, il s'intéresse à la quête de l'absolu et à la chute. Il faut dire que Catherine Grindorge et Bernard Van Eghem avaient déjà travaillé ensemble. Ils avaient déjà créé deux autres spectacles ces dernières années. Et en s'intéressant aux origines de la vie et à la fin de la vie, donc ici, ils parlent de tout ce qui, toutes les chutes, toutes les expériences qui vont jalonner la vie, les petites chutes, les grandes chutes, et donc les quêtes d'extrême et d'absolu. Wow. Après, voilà. Après une sorte d'introduction sur toutes les expressions autour de la chute. Ça va de la chute des feuilles à la chute d'Icare, à tomber amoureux ou tomber malade, et tout ça dans les trois langues. Donc, y a pas de surtitre. C'est pas trois fois le même texte dit dans les trois langues différentes. Mais je trouve pas que ce soit un problème de compréhension, parce que voilà, on sent c'est une énonciation de mots, tout un champ lexical autour de ces thèmes. Et après tout ça, en fait, ils abordent les histoires extraordinaires de trois hommes qui ont cherché à se réaliser dans l'extrême, quitte à tomber et à en mourir. Et ces trois personnes, il y a un aventurier australien qui a tenté de rejoindre la Nouvelle-Zélande en kayak, d'où le titre, donc 1600 km en 30 jours dans une mer dangereuse. Il en est mort. Il y avait un funambule français dans les années 70 qui tendait son fil entre des monuments célèbres, dont ici les tours jumelles à New York. Et aussi, dans les années 70, un artiste-performeur hollandais qui avait pour thème central dans son art conceptuel la chute. Et donc, il se filmait dans des performances où il chutait d'un arbre, et ce genre de choses. Et lui, à la fin de sa vie, il a tenté la traversée de l'Atlantique en solitaire sur un petit voilier. Et il en est mort aussi.
Bon, Sophie, quand tu racontes comme ça, c'est très drôle.
Mais il y a quand même un peu d'humour dans ce spectacle, de toute façon. Il y a aussi de l'émotion, mais ça se veut aussi d'être traité avec humour. Et aussi, il y a un côté mis en avant de aller vivre ses rêves, finalement, même si c'est vraiment un extrême et qu'on doit s'arrêter là.
Mais le thème de la chute est très intéressant dans la vie ou dans l'univers au niveau des expériences. Mais comment ils amènent ces témoignages sur scène?
Alors, tout d'abord, c'est une partie de témoignages personnels qui vont amener l'introduction des histoires de ces trois personnes dont je viens de parler, et aussi les témoignages des femmes qui restent après, qui se retrouvent seules après. Donc là, ils ont fait une petite alternance de passages, évidemment, joués face au public. Et sur scène, il y a une grande bâche transparente qui est peinte en son centre de blanc, sur laquelle vont être projetées des images vidéo. Et de temps en temps, les comédiens se placent à l'arrière et ils utilisent une caméra. Il y a un travail vidéo dans
live.
L'instant. Voilà, et donc là, c'est un témoignage des femmes, notamment, qui sont restées.
Donc, les comédiens s'incrustent dans un écran pour jouer femme.
Voilà, alors hier, c'était la première au Tanner. Il y a malheureusement eu des soucis techniques sur la fin, donc on croise les doigts pour que...
Et Van Eghem joue les femmes?
Alors non, lui, il joue... Non, je ne pense pas qu'il ait fait de témoignage féminin.
Il est extraordinaire comme comédien.
Oui, alors lui, donc il faut préciser, il est néerlandophone, mais il joue en français. Mm-hmm. Et il y a une scène où il raconte qu'il patinait sur un canal gelé à Bruges et il est complètement dans son histoire, il nous conte tout ça. Alors il y a aussi au niveau de l'écriture, il y a de belles références, tout des jeux de mots, voilà, des petites choses qui font appel à des associations d'idées. Et c'était assez drôle. Voilà. Après, bon, c'est une belle idée de départ, mais que j'ai trouvée inachevée. Les liens dans la mise en scène sont souvent inexistants. On passe d'un personnage à l'autre, d'une histoire racontée à une autre, et le propos ne va pas aussi loin qu'on l'espère en lisant l'intention. On s'attend à, voilà, ils nous disent, on va chercher à savoir, à comprendre pourquoi on mène cette quête de l'extrême, pourquoi on se lance dans ces projets absurdes.
Et c'est surtout des chutes dont on ne se relève pas, si on en croit les trois profils que tu as décrits tout à
voilà.
l'heure.
Voilà, et donc il y a ces grandes chutes, mais il y a aussi des chutes plus petites, dans des abîmes moins profonds, qui sont de l'ordre du quotidien.
Mais est-ce que le spectacle se veut spectacle labo? Tu vois, on bricole, on va vous montrer, ou bien c'est vraiment, on part d'un fil à l'autre et... Il y a des fois des comédiens qui sont sur scène et on a l'impression qu'on est dans leur laboratoire. Donc ils bidouillent des trucs, ils nous racontent des choses. On a l'impression que les raccords ne sont pas tout à fait faits, mais c'est fait exprès pour...
Oui, mais ce n'est pas la première impression qui ressort. Il y a cette image un peu de labo et dans une belle volonté esthétique aussi dans l'utilisation de la caméra. Il y a une chouette volonté esthétique vraiment qu'on sent poindre, mais qui ne va peut-être pas encore assez loin, avec un nuage de fumée qui vient des cigares et qui évoque la brume. Mais peut-être le flou de la vie, ce genre de choses. Donc voilà, il y a plein de belles petites choses, mais pour moi, ça n'a pas pris, en tout cas.
Ça reste sur la fin.
Voilà. Et c'est de toute façon à voir jusqu'à ce samedi 18 février au Tanner, et les infos sur letanner.be.
Exactement. Un peu de musique.
Musique, maestro.
La conspiration.
Retour dans la conspiration des planches.
Ben oui, une grande question, que deviennent les spectacles après leur création? Alors certains reviennent, mais il faut savoir que d'autres sont finis, les décors sont rempilés, donc il y a un peu une tristesse quand même pour les artistes. Mais quand même, il y a les fameuses reprises, deux reprises à vous parler ce soir dans la conspiration des planches. Historia Bierta, que Catherine a vu pour nous, de Laurent Moinson, et Catherine est malheureusement devant une porte de théâtre à cette heure-ci, mais on l'a eu au téléphone juste avant l'émission, et elle nous parle de Historia Abierta de Laurent Moinson. Je vous propose de l'écouter.
Bonjour Catherine, justement toi tu es partie, tu avais vu pour nous Historia Abierta de Laurent Moinson.
Oui, bonjour. Alors Historia Abierta, ça veut dire histoire ouverte en espagnol, parce qu'en fait c'est un spectacle sur le Chili. C'est un petit peu la marque de fabrique de Laurent Moinson, qui aime bien s'immerger dans des cultures un peu différentes. Et en faire une pièce. Cette fois-ci, il est parti au Chili pendant plusieurs mois. Il a sillonné le pays du nord au sud et il a rencontré plein d'artistes et aussi ce qu'il a appelé des témoins. Et donc l'idée, c'était pas du tout de faire une leçon d'histoire sur le Chili ni une leçon de géographie. C'était vraiment de coudre ensemble des dizaines de petites histoires singulières, personnelles, et à travers ça, de parler du Chili. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Et puis finalement, ça donne un spectacle assez ample, un peu brouillon malheureusement, mais voilà, qui est plein de générosité, qui dit beaucoup de choses sur le Chili. Il y a une comédienne notamment qui est d'origine Mapuche, donc la communauté indigène du Chili. Voilà, il y en a d'autres qui reviennent sur l'histoire tourmentée du Chili avec Pinochet, Allende.
C'est une distribution chilienne?
C'est une distribution entièrement chilienne, donc il est vraiment allé travailler là-bas, je crois, au moins 6 mois. Mm-hmm. D'abord pour rencontrer les gens et puis ensuite pour faire une petite sélection d'artistes. Donc ce sont des comédiens, mais des comédiens chiliens, mm-hmm. des comédiens professionnels chiliens. Donc là aussi, c'est intéressant de voir le jeu de comédiens sud-américains. Mm-hmm. Et ce qui est beau aussi, c'est tout le travail vidéo, la musique. Il y a à un moment donné un chœur de comédiens. Il y a aussi parce que ce qui est très connu au Chili aussi, c'est l'art mural, mm-hmm. qui était en fait un moyen de propagande dans les années 60. Et là, à un moment donné, pendant la pièce, la vidéo, en fait, retrace la peinture d'un mur en direct.
Mmh. Donc, on n'est pas dans les images vidéo des villes, comme on pourrait croire. Il ne nous a pas filmé le Chili pour nous le renvoyer en images.
Non, pas du tout.
Ce n'est pas exploration du monde.
Non, ce n'est pas du tout un documentaire. Alors là, pas du tout. C'est très théâtral. Il se passe plein de choses. C'est très explosif, en fait. C'est un kaléidoscope de choses.
Et je crois que Laurent Moinson a voulu aussi parler d'une génération chilienne, puisque je crois qu'il a fait son choix aussi parmi des gens qui ont très peu connu cette période dictatoriale aussi, et qui permettent ainsi de rebondir et d'apporter une vision du futur du Chili aussi.
C'est vrai, c'est intéressant, c'est une génération qui n'a pas 30 ans, je dirais, et qui a dû, pour ce spectacle, faire un travail de recherche sur leur passé, sur leurs origines, et aller parler aux anciens, et tisser leur histoire à partir de ça. Et il racontait notamment qu'on sent qu'il y a toujours un malaise par rapport à cette histoire, mm-hmm. par rapport à ce passé, et que c'est très dur de délier les langues, et en effet, c'est ce qu'il a voulu faire dans Historia Abierta.
Et Catherine, Laurent Moinson a un côté comme ça théâtre politique, mais il a aussi un côté théâtre poétique. Est-ce que, par exemple, c'est des récits, des témoignages politiques, ou bien on est dans des anecdotes, dans une théâtralité propre au théâtre, quoi, dans des... dans des histoires.
Moi, c'est ce qui m'a manqué un petit peu cette fois-ci, parce qu'il avait fait exactement la même chose avec le Congo. Mm-hmm. Il était parti 6 mois au Congo pour créer Africar, mm-hmm. Qu'il avait créé il y a quelques années. Et là, il y avait une poésie dingue, tout en racontant un pays. Ici, voilà, c'est plus éparpillé pour moi, c'est plus... voilà, on traverse une histoire, mais il manque une certaine poésie, ça c'est sûr.
Est-ce que c'est joué en français ?
Non, c'est joué complètement en espagnol, mais bon, c'est sous-titré, hein, donc on ne perd pas une miette de ce qu'ils disent, c'est très visuel aussi, il y a une grande énergie comme ça, et il utilise beaucoup la vidéo comme il l'avait fait dans son dernier spectacle avec Dieudonné Kabongo, où la vidéo est très vivante, comme ça, elle interagit avec les comédiens. Mm-hmm. Ça, c'est pas mal. Donc, franchement, pour l'énergie et la générosité que ça dégage, il faut y aller. Et puis, ça s'est peut-être resserré depuis la dernière fois que moi, je l'ai vu à la création, la saison dernière.
Ok.
Historia Abierta, c'est un spectacle donc belgo, mais surtout chilien aussi, avec une distribution monstre. Hein. Inutile de vous citer toutes les personnes qui soient là, les plasticiens, les chorégraphes, les danseurs, parce que c'est vraiment multidisciplinaire. C'est à voir jusqu'au 18 février au Théâtre de Poche, www.poche.be. Merci Catherine.
Merci.
Voilà, c'était pour Historia Abierta aux Poches. Moi, je vais vous parler d'une autre reprise qui a lieu à l'Océan Nord pour leurs 30 ans de la compagnie Océan Nord. Ils reprennent leur spectacle phare, on va dire. Et ici, c'est Kadish, à l'enfant qui ne naîtra pas, d'Imre Kertész. Alors, il y a des spectacles qu'on garde comme des petits bijoux dans sa mémoire. Et celui-là fait partie dans mes coups de cœur ou les spectacles inoubliables. C'est Imre Kertész, hein, l'écrivain hongrois qui est un survivant d'Auschwitz, qui a écrit ce texte en 95, je crois. Il avait 66 ans. Donc, c'est dire le temps qu'il fait pour retrouver une écriture ou en tout cas une parole. Il avait déjà fait un peu la vie d'un déporté dans Être sans destin, et c'est un titre assez significatif qui se sent aussi dans cette pièce. C'est l'histoire, c'est vraiment un soliloque, un solo comme ça. C'est Paul Camus qui joue ça, un comédien de l'Océan Nord, qui est époustouflant. On dirait que c'est un... Je l'ai vu en 2007, donc ça reste des souvenirs. On dirait que c'est un vieillard comme ça. Il est dans un univers très ombre. Il y a un immense tronc d'arbre qui gît à travers la scène hangar, on va dire, de l'Océan Nord, un arbre sans racines. Et c'est l'histoire d'un type qui avance lentement. Les mots sont posés doucement. Et on rentre dans cette intimité. On dirait qu'on a l'impression de rentrer dans une voie intérieure. Et il est dans un dialogue avec sa femme. Et le Kadish, donc, c'est cette prière aux morts dans la religion juive. Et Kadish pour l'enfant qui ne naîtra pas, parce que toute la question est, après Auschwitz, comment lui aurait pu donner un enfant, aurait pu enfanter à sa femme qui, elle voulait, qui espérait soigner les blessures, si on peut soigner cette blessure-là. Et donc, il est dans cette réponse, on va dire, à sa femme, et en même temps dans son intériorité très profonde. Et on se rend compte tout doucement dans le récit, dans sa réflexion, il est dans une marche philosophique, on va dire, dans les bois. Il fait plein de citations de philosophes dans un dialogue comme ça avec le monde où il se pose la question, justement, tout doucement, on rentre dans ça, dans l'autorité. Et c'est juste le mot comme ça qui, en kaléidoscope de toute cette pièce, il se rend compte que finalement, cette répulsion face à l'autorité, et quand on a un enfant, il y a aussi la responsabilité, et ce qui suis-je, moi, pour dire à l'enfant de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, cette autorité un peu nauséabonde, il se rend compte que c'était bien, bien, bien avant Auschwitz, et c'était dans tout le système de l'éducation, et notamment des parents. Et donc, on est dans ce trouble entre Auschwitz, sa vie, je ne veux pas d'enfant, et on fait un retour sur la famille et l'autorité et sur les peurs. C'est vraiment un spectacle qui a l'air sombre comme ça, et en même temps, curieusement, ça a quelque chose de très lumineux, de très vivant. Et c'est, on dit souvent un comédien, une prestation magistrale, et ben là on est dans le magistral. C'est vraiment un solo à plaie ouverte, et Paul Camus qui est époustouflant.
Premier des trois spectacles à revoir pour les 30 ans de l'Océan Nord, je crois.
Là, l'Océan Nord a des spectacles phares dans son histoire. Ça fait partie de... Et c'est vraiment... Il y a des pièces comme ça qui vous poursuivent quand vous sortez du théâtre, et des jours et des mois. Et c'est le genre de traces que ça vous laisse dans le corps. Là, c'est vraiment, on est dans le corps. Et c'est ce genre d'expérience de spectateur. C'est à voir une bonne reprise jusqu'au 25... on est en février. J'en perds mes mots parce que ça reste... très émouvant, Kaddish à l'enfant qui ne naîtra pas d'Imre Kertész, dans l'interprétation de Paul Camus, mise en scène d'Isabelle Pousseur. Donc quelque chose de très sobre dans un théâtre de chambre, donc c'est très intimiste malgré l'ampleur de la scène. Je vous recommande évidemment fortement.
Alors très vite, deux autres spectacles à vous signaler également, cette période encore une fois de Saint-Valentin, un spectacle sur la thématique de la passion amoureuse, un seul en scène de Valérie Benji-Lali qu'il a coécrit avec Christian Dalimier.
Ah ben c'est joli, après l'enfant qui ne naîtra pas.
Comme tu respires, c'est le titre de ce spectacle qui nous invite à suivre la pensée chaotique d'un homme stressé par l'attente, égaré entre vérité et affabulation, fiction et réalité, parce qu'il attend la femme qu'il aime. Voilà tout simplement, c'est à voir jusqu'au 16 février du côté du Centre culturel Jacques Franck, www.lejacquesfranc.be, et signaler aussi, certes un peu tôt puisque ce sera le 28 février, mais il y a très peu de place et ça part très vite, c'est le spectacle Vie de Michel Nguyen, dont on vous a déjà beaucoup parlé, qui a reçu le prix de la critique cette année.
Oui, cette année, on l'a nominé en meilleur seul en scène. Elle raconte son histoire de Michel Nguyen, son histoire, elle vient de Mons avec une grand-mère hyper acariate, et elle raconte un peu son périple et sa découverte de l'art, et surtout elle a une petite marionnette à son effigie qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, donc il y a un dialogue avec la marionnette et c'est très beau.
C'est à voir donc le 28 février. Pour plus de renseignements, allez écouter nos podcasts qui sont toujours disponibles. Il y a la critique de Vie de Michel Nguyen donc au Jacques Franck, www.lejacquesfranc.be.
À la semaine prochaine, alors Conspiration des plans se termine comme ça. Semaine prochaine, création et reprise aussi. Au revoir, au revoir.
À très bientôt, belle semaine à vous. Et donc, demandez le programme.be pour tous les podcasts, radiocampusbruxelles.org pour toutes les informations sur les spectacles, et aussi, pourquoi pas, du côté du centre de ressources de la Bellone sur labellone.be. Très très belle semaine à vous, à très bientôt.
Constelación.